Philippe 5 mai 83 à Rimont.
Petite question, j'y réponds tout de suite. C'est un petit peu ça. Ça touche ce que nous avons vu. Pouvez-vous montrer la place de la volonté dans l'inspiration? Très difficile. Parce que l'inspiration, elle est en dehors du point de vue volontaire. Hein. On ne peut pas presque appuyer sur un bouton en disant maintenant je veux être inspiré. Si vous dites maintenant je veux être inspiré, je crois que c'est la bonne façon de ne plus avoir jamais aucune inspiration. C'est très curieux du reste. C'est pas une question de volonté. L'inspiration est beaucoup plus du côté de l'intelligence, du côté de l'imagination. Beaucoup plus. Alors, il y a un accueil à l'inspiration. Il y a une disposition à l'inspiration. Mais je ne peux pas commander mon inspiration. Je ne peux pas. C'est quelque chose qui m'est donné gratuitement. C'est pour ça que les anciens disaient, c'est des muses. On voit très bien. Parce que ça m'est donné gratuitement. Je ne peux pas, je voudrais bien quelquefois, hein, quand on a un petit travail à faire, quand on a quelque chose à réaliser, quand on doit donner un cours, parce que je connais des professeurs qui ne veulent donner des cours que quand ils sont inspirés, alors à ce moment-là, ça arrive rarement, alors feu vert, feu rouge, vous voyez, il y a des jours où on doit donner un cours sans être du tout inspiré. Alors l'inspiration peut arriver quelquefois à travers le cours, heureusement, n'est-ce pas, mais on devrait, chaque fois qu'on donne un cours, être inspiré sur la matière sur laquelle on doit jouer, et on ne peut pas. Là, il y a un acquis. Voyez, c'est comme les gens qui ont du métier. Ils le disent, du reste. Pour un peintre, c'est la même chose. Ils tournent. Vous avez déjà vu des artistes travailler, c'est toujours très curieux. La manière dont ils travaillent, ils tournent autour. Puis tout d'un coup, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui est particulier. Mais c'est vrai, c'est très vrai que la volonté n'intervient pas directement dans l'inspiration, sauf dans la préparation et l'attention, l'accueil. Alors je dirais là oui. Mais ce n'est pas direct. Et cependant, l'inspiration implique, ce n'est pas l'intelligence spéculative, hein, c'est l'intelligence pratique. Et donc la volonté est présente. Mais un amour à l'égard de l'œuvre qu'on doit faire. Il y a cet amour qui dispose. C'est pour ça que je dis de l'ordre de la disposition, de l'ordre de l'orientation vers. Mais ce n'est pas direct, sûrement pas. Ordinairement, c'est ça. On travaille, on désire réaliser quelque chose, on attend que ça s'éclaire, ça a des difficultés, on se met quand même au travail, et c'est ordinairement à l'intérieur du travail que l'inspiration se donnera. C'est très souvent. C'est pas en restant sans rien faire, hein, pas du tout. Ça me tient de travailler. On travaillera pas avec la même qualité si on est inspiré ou pas inspiré, mais on travaillera quand même. C'est ça, avoir du métier. C'est ça, réaliser quelque chose. On sait très bien que quand on doit réaliser n'importe quelle chose, il faut ordinairement essayer une première fois, puis une seconde fois, puis une troisième fois, quelquefois quatre. Hein. Quand vous devez faire un petit travail pour un séminaire, hein, c'est pas commode. C'est au début, on ne voit pas du tout ce qu'on veut. Et puis alors ça vient, hein, à un moment donné, il y a des tas de choses à dire. Puis alors, après on dit, ah, on a ramené quelque chose de simple. Parce que l'accumulation n'est pas géniale. Hein. L'accumulation n'est pas l'inspiration. Mais c'est tout d'un coup, on dira, tiens, on découvre. Et souvent, c'est très bien du reste, on voit très bien dans les réalisations. Et souvent, c'est 8 jours après qu'on a donné son séminaire qu'on est éclairé. C'était idiot, pourtant c'était, et puis j'avais marqué, c'était resté dans les ténèbres, c'était tombé dans les ténèbres, et tout d'un coup ça revient. C'est très mystérieux. L'inspiration au point de vue intellectuel, l'inspiration au point de vue travail intellectuel, quand vous parlez à des, à des peintres, à des musiciens, c'est la même chose. Quand ils acceptent de parler de leur inspiration, évidemment, ils n'aiment pas beaucoup. Oui.
On se demandait si l'amour de l'artiste pour son œuvre venait plus de l'œuvre à réaliser ou plus de son idéal.
De l'idéal qu'il n'a pas encore réalisé. Cet amour initial avant l'inspiration. Vous voyez, je ne sais pas quoi, il désire faire quelque chose, il a ça en tête, depuis longtemps je voudrais faire ça. Puis s'y met, vous voyez, il y a un amour à l'égard de l'œuvre, d'une œuvre idéale qu'il porte en lui, pas de l'œuvre faite. Vous voyez, cet amour à l'égard d'une œuvre idéale, forcément. Alors, c'est pas un amour, vous voyez, c'est pas l'amour à l'égard d'une personne. Que l'amour à l'égard d'un idéal, c'est un amour très particulier, c'est justement l'amour de l'intelligence poétique. Oui. C'est pas le même amour, c'est évident que c'est pas le même amour qu'à l'égard d'une personne. Mais c'est quand même un véritable amour. C'est quelque chose qui me porte et qui, voyez, a ce privilège de pouvoir mobiliser mes forces et me mettre dans un état d'attente. Bon, alors nous avions vu comment l'inspiration qui porte sur les possibles, subitement, cette chose mystérieuse, très mystérieuse, le passage de l'inspiration au choix créateur. Je n'y reviens pas, parce que je crois que c'est une chose, on pourrait revenir indéfiniment là-dessus, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de très très difficile. Ce passage des possibles, des multiples possibles. L'inspiration est source de multiples possibles. Et je suis là vraiment source de ces possibles. Ces possibles viennent de moi, ces possibles viennent de moi et ces possibles déterminent mon intelligence, parce que l'inspiration est dans l'intelligence pratique. L'intelligence pratique poétique. L'intelligence pratique poétique n'est pas l'intelligence pratique prudentielle. Toute chose. Alors, cette intelligence pratique poétique, subitement, grâce au lien avec l'imagination, va me donner cette inspiration des possibles. Et de ces possibles, va apparaître quelque chose de nécessaire. Un certain possible nécessaire. C'est ça qui est très curieux. C'est presque contradictoire et terminus, hein, dire possible nécessaire. Et pourtant, c'est ce qui arrive. C'est que le possible, les possibles de l'inspiration, subitement arrivent à s'imposer. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a un choix créateur. Alors encore une fois, faisons attention, ce choix créateur peut se faire progressivement. Il peut se faire comme un tâton dans l'obscurité. Il me semble bien que c'est par là que je dois poursuivre. Je ne vois pas encore très bien. Et progressivement, ce nécessaire, ce moment, ce qu'on doit faire apparaît comme s'imposant. Donc, ça peut très bien être lié à la phase suivante du travail. Je travaille, je réalise la chose, et à l'intérieur de ce travail, le nécessaire s'impose. Quelque chose de nécessaire s'impose. Parce que si j'attends indéfiniment le nécessaire, il ne viendra pas. C'est curieux ces choses-là, vous savez. Et on comprend très bien, parce que si vous vous tendez, je ne vois rien, je suis inspiré, mais qu'est-ce que c'est? C'est tellement riche cette inspiration que je porte, j'arriverai jamais. Alors je reste devant ça en me disant, qu'est-ce que je vais faire? Impossible. Et on sent très bien qu'on ne peut pas demander conseil, hein? Il n'y a pas de phase de conseil. Là. Alors, il faut attendre que ça s'impose. Et si j'attends que ça s'impose, je m'énerve. Et le possible ne passe jamais au nécessaire. Alors il faut savoir, hein, caresser la bête. Et ordinairement, caresser la bête, c'est commencer à travailler. Quand vous commencez à travailler, ah, c'est quelque chose. Vous déchirez sans doute la page que vous aurez écrite. Après, ça n'a pas d'importance. C'est ça qui aura amorcé la vieille pompe. Hein? Ça aura permis. Tandis que si vous dites, ah non, non, non. J'ai rien du tout, vous savez, c'est comme pour les examens, on vous donne un sujet, vous voyez rien du tout, il n'y a rien qui n'y plus qu'une feuille de papier blanche. Alors vous regardez ça, vous mettez le nom au-dessus, vous voyez rien du tout, rien du tout. Ah, plus inspiration, et à ce moment-là, plus aucun choix créateur, je suis obligé de faire quelque chose. Mettez-vous à écrire. Pas du tout, ça n'a pas d'importance. Et vous savez bien, les petits trucs sont très simples. Hein. Il y a des petits trucs, là. Des petits trucs de rhétorique. Et les petits trucs de rhétorique consistent à prendre l'antithèse. Vous voyez, là, la dialectique est très, très aimante, très aimante. On vous donne un sujet, prenez le sujet opposé. Et vous ferez un sujet brillant au sujet opposé. Hein. L'inspiration viendra à ce moment-là. Et puis alors, vous reviendrez à votre sujet après. On a besoin de ça, il faut comprendre, l'intelligence humaine ne peut progresser que quand elle regarde à côté. Vous voyez, elle a un balancement comme ça, parce qu'elle aime, elle aime de composer. Si vous êtes uniquement devant un seul sujet, sans inspiration, vous resterez devant sans rien voir. Rien de... Alors, l'examen, en plus de ça, vous mettant dans un état particulier, ça vous empêche de réaliser quelque chose. Absolument impossible de réaliser quelque chose. Alors, on prend tout de suite, au contraire, l'opposé, et là, ça commence à venir. Alors, progressivement, on se met à travailler. On se met à travailler, on se met à écrire, on pige. Et alors, ça vient. Ça vient. Il ne faut jamais se dire, ah, ce ne sera pas parfait, je vais le déchirer, donc ça ne sert à rien. Oui, ça sert, ça dispose, ça vous met dans un climat. Vous créez vous-même ce climat qui aidera. Oui. C'est pour ça qu'il faut ordinairement du temps. Si je n'ai pas le temps de me mettre à travailler, ça ne viendra pas. Et j'ai besoin de ça. Donc, il y a le passage. Hein. Alors, ce passage reste très mystérieux. On a essayé de le comprendre. Ce n'est pas une induction, ça c'est sûr. Le passage de ces possibles, de ces multiples possibles, nécessaire. C'est pas une induction, mais c'est quand même très intéressant de voir ce passage. Parce que c'est comme une induction interne, dans l'ordre du possible où je découvre le nécessaire. Vous voyez, faites le parallélisme avec l'induction. Je pars du multiple, de multiples expériences et j'aboutis à l'universel, à l'un universel qui est le nécessaire. Il y a quelque chose d'analogue au point de vue formel. Mais c'est pas une induction. Pourquoi c'est pas une induction? Il n'y a pas d'interrogation. Dans l'induction, il y a toujours une interrogation qui oriente votre intelligence. Il n'y a pas d'interrogation. C'est de l'intérieur même de ces possibles que se déterminera le moyen nécessaire, le possible nécessaire. C'est de l'intérieur même. Sans interrogation, il ne peut pas y avoir d'interrogation. Vous ne savez pas où vous allez. Ah, vous savez à peu près, vous devinez à peu près, mais vous voyez, c'est très différent la manière dont l'artiste travaille et l'homme prudent. C'est diamétralement opposé. L'homme prudent cherche sa fin, et en cherchant sa fin, il voit les moyens et il demande conseil. L'homme prudent, cet immense avantage, c'est qu'il peut demander conseil, alors que l'artiste ne peut pas demander conseil. Parce que le conseil viendrait de l'extérieur, il viendrait quelque chose qui... Alors, on dira, cet homme, il est imprudent, il ne demande pas de conseil. C'est un artiste, ne lui demandez pas de demander conseil. Ne demandez surtout pas à un artiste de devenir prudent. C'est la dernière des choses. Hein. Dernière des choses, demander à un artiste de devenir prudent. Alors, il faut accepter que pour l'œuvre qu'il fait, il doit être un artiste. Alors, s'il fait une œuvre humaine, une œuvre d'éducation et de rééducation, c'est très différent. À ce moment-là, il faut la prudence. Parce que si vous faites une œuvre d'éducation et de rééducation en artiste, vous faites du dressage. Et le dressage n'est pas éducatif. Sauf pour les animaux. Mais c'est justement l'inverse de l'éducation. Alors ça, c'est l'œuvre artistique. Et l'œuvre artistique fait du dressage. On dresse un animal. Et on peut dresser des hommes par des méthodes. On peut les mettre tous au même rang, si vous voulez, et faire tous le même geste. Mais c'est du dressage, c'est plus d'éducation. Alors, dans l'éducation, c'est ça qui est très très difficile. Dans toute éducation, à tous les niveaux, dans toute éducation, ce qui est très difficile, c'est qu'il y a un mélange d'art et de prudence. Il y a les deux, hein, il y a les deux. Dans tout homme politique, il y a un éducateur. Dans tout homme politique, il y a un éducateur. Et plus il prend la matière basse, c'est-à-dire plus on est descendu bas, plus il faut qu'il soit éducateur. Il pourra. Et alors, en tant qu'éducateur, il doit être un homme prudent, parce qu'il a affaire à des hommes. Il veut éduquer des hommes. Mais en même temps, il faut, pour tenir en haleine ces hommes, il ne faut pas leur donner des petits jouets, mais il faut réaliser quelque chose avec eux. Et alors si on réalise quelque chose avec eux, alors là, l'art intervient. Et réaliser quelque chose avec eux, c'est justement l'artiste qui est là pour intéresser et séduire. Puisque par là, il y a une certaine séduction. Tandis que l'homme prudent ne séduit jamais. Il n'a pas le droit. Il doit chercher la fin, il doit chercher le bien. Oui. Alors, c'est ça qui va être, je crois, important à saisir pour nous ici. Je voudrais, voyez, comme nous faisons parallèlement le point de vue de la naissance de la prudence, voire la naissance de l'art. La techné, le mot grec dit mal, l'art, ce que nous appelons art, c'est un habitus, hein, c'est un habitus. L'art, un habitus acquis. L'inspiration n'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui nous est donné. Et le choix créateur n'est pas non plus quelque chose au sens strict d'acquis, c'est quelque chose qui nous est donné. Tant, et alors, à partir de là, va s'acquérir le point de vue de l'habitus d'art. Et l'habitus d'art est un habitus acquis. L'art est un habitus acquis. Alors, mettez la même chose, les Grecs existent. C'est quelque chose qu'on acquiert. Alors, faisons un peu la même chose que pour la vertu. Parce que c'est toujours un peu parallèle. Hein. Les deux choses, le point de vue de la prudence et de l'art, s'acquièrent toujours un peu en parallèle et toujours un peu, j'allais dire, en rivalité. Je crois qu'il y a une rivalité permanente que nous portons en nous. Une rivalité permanente entre l'artiste et l'homme prudent. Alors, chez certains, on voit tout de suite l'artiste. Chez d'autres, on voit tout de suite l'homme prudent. Mais si on a une œuvre commune à réaliser, si on a une œuvre politique à réaliser, si on a une œuvre d'éducation à réaliser, il faut les deux. C'est absolument indispensable, il faut les deux. Parce que toute communauté, même une communauté religieuse, ne peut vivre que si elle réalise une œuvre commune. Mais une communauté purement prudentielle, sans œuvre, sera impossible. C'est extraordinaire, c'est impossible. C'est pour ça que l'élément intellectuel peut aider une communauté. L'élément artistique peut aider une communauté. Parce que c'est un élément où on fait quelque chose ensemble. Alors ça aide. Et une communauté, un pur noviciat, vous voyez, un pur noviciat. Dans un noviciat pur, on dit toujours, hein, vos qualités, mettez-les à la porte. Et venez maintenant, vous formez la vertu pure. Vous voyez ? Vous formez à la prudence, vous formez à la justice, à la tempérance, et puis à la force. Alors, un noviciat, c'est l'exercice, acquérir les vertus. Alors, s'acquérir les vertus en laissant tomber autant que possible les capacités de chacun, parce que c'est gênant quand une capacité de quelqu'un, vous comprenez, on va favoriser en lui quand même quelque chose, hein, on va favoriser son intelligence. Alors les bons vieux permettent, disent, pas trop d'intelligence au noviciat, surtout, Et même chez les dominicains, ça se disait comme ça, mon père maître que j'ai comme noviciat simple, avait une frousse intense des études. Très intense, non, la vertu. Alors la vertu tout court, hein, c'est quelquefois très ennuyeux. Il manque l'intelligence. Et souvent même, c'est plus très prudentiel. Et alors quand c'est une communauté vertueuse, c'est extraordinaire. Comme c'est ennuyeux. Mais, c'est vrai ça, c'est ennuyeux parce qu'il ne se fait rien. Tout le travail est immanent. Alors il ne se fait rien. Alors on a besoin quand même que quelque chose se fasse. Alors on ne sera pas sur la liturgie. Vous voyez ? Parce que la liturgie se fait quelque chose. C'est l'avantage. Et qu'il y a un petit peu d'art. Alors on ne sera pas sur la liturgie. Alors on a une liturgie vertueuse. Vous voyez ? une liturgie vertueuse, ou alors l'art est complètement disparu, parce qu'il faut pour les novices, surtout pas, ceux qui ont de belles voix, il ne faut pas qu'ils les cultivent trop, parce qu'ils pourraient s'enorgueillir, n'est-ce pas ? Alors il ne faut surtout pas, alors il faut mettre ceux qui chantent le plus mal pour chanter. Et là, vous voyez, c'est la scène. Alors là, on a la scène pour essayer d'exercer la vertu. Alors, il s'agit de la vertu. Et on voit ces choses-là. Ça existait, ce que je dis là. Ce n'est pas des choses impossibles. Hein. C'est des choses qui existent encore maintenant. Et c'est des choses terribles. Parce que la communauté implique toujours, toute communauté implique une œuvre commune. Et l'œuvre commune n'est pas morale. Parce que la morale, il n'y a pas d'œuvre. C'est intérieurement, c'est la purification du cœur. C'est la purification du cœur. Alors, il n'y a que quelque chose d'immanent. Il n'y a pas d'œuvre. Il faut une œuvre. L'œuvre permet, voyez, à notre irascible de se développer. Une œuvre commune intellectuelle, une œuvre commune d'ordre liturgique, où on accepte qu'elle soit belle, qu'elle soit grande, qu'elle soit. Ben, il y a quelque chose de l'intelligence qu'on doit chercher et qu'on cherche. Ce qu'on doit chercher. Toute communauté doit avoir sa liturgie propre. Et une communauté n'est vraiment une communauté que quand elle a sa liturgie propre. Quand elle a pris la liturgie, comme vous savez, les abeilles, le pollen de la rose, de la violette, le pollen de la pivoine, le pollen de tel ou tel endroit, puis alors on fait son miel. Très très bien, ça c'est très très bien. C'est un peu pièce et morceau, tu vois. Parce qu'il n'y a pas eu d'inspiration suffisamment forte. Alors on fait ça. On peut se contenter, mais ce n'est pas la robe sans couture, parce qu'il y a beaucoup de couture. Alors vous voyez, c'est que de fait, c'est quelque chose qui n'est pas encore pleinement vécu de l'intérieur. C'est quelque chose qui est fait de pièces et de morceaux. On peut s'en contenter, mais vaut mieux ça, un drap fait de pièces et de morceaux pour vêture la nudité et que de rester dans la nudité absolue, surtout quand la corruption arrive. Alors à ce moment-là, ça devient très ennuyeux. Tandis que le point de vue d'un vêtement, même s'il est fait de pièces et de morceaux, c'est pas la robe sans couture, mais c'est quand même quelque chose. C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. Normalement, ça devrait naître de l'intérieur. On verra ça, la liturgie, parce que c'est important dans l'art, de voir ce que ça représente. Et c'est complexe, hein, parce que la liturgie, c'est pas un art pur. C'est un art dans lequel il y a des éléments de morale. Parce qu'il y a la prière, il y a la contemplation, il y a l'adoration. Alors il y a tous ces éléments qui relèvent de l'activité intérieure et qui peuvent faire très bien qu'à ce moment, à un certain moment, on dira « Ah, il vaut mieux le silence ». Donc la liturgie disparaît pour l'aspect purement intérieur. Et à d'autres moments, il faut que l'aspect extérieur apparaisse. Donc il y a l'élément liturgique, mais ce n'est pas suffisant pour une communauté. Surtout avant, où la liturgie était très imposée de l'extérieur. Alors c'était pas assez quelque chose qui maintenait le souffle et l'élan. Il faut une œuvre commune. Mais il faut une œuvre commune, vous voyez, qui permette une coopération. Quand l'œuvre commune devient trop lourde de l'extérieur, alors elle étouffe. Il y a tout un équilibre à voir. Alors c'est ça qui est intéressant à essayer de comprendre. Hein. On verra ça progressivement, parce que c'est ce que je voudrais maintenant, c'est de comprendre pourquoi. Exactement comme nous l'avons fait pour le point de vue moral. Pourquoi il y a nécessité d'acquérir un habitus d'art? Pourquoi ce n'est pas suffisant? Ce que nous avons vu jusque maintenant, l'analyse du facere. Très difficile à traduire, hein, parce que je n'ai pas encore eu de traduction faite par vous, parfaite. Hein. L'analyse de la réalisation artistique. De la réalisation artistique. Je fais quelque chose. Le facere tout entier, tendu, mouvement. Nous avons essayé d'étudier tous les moments du facere. Nous avons vu l'importance de l'inspiration, l'importance du choix créateur, l'importance du travail. Trois grands moments. Alors, on pourrait dire que c'est suffisant. pourquoi l'acquisition d'habitus de l'art? Il faut se poser la question. Autrement, je ne comprends pas. Alors, l'art deviendra inutile. On dira, c'est pas la peine. Moi, je me fie à mon inspiration. Aucun grand artiste ne dira ça. Les bricoleurs, c'est la différence entre le bricoleur et le grand artiste. Alors, le bricoleur dira, oui, vous savez, quand vous n'avez pas d'inspiration, vous tournez vos épouses, c'est tout. Hein. Mais quand vous avez l'inspiration, alors allez-y. Et alors, l'inspiration remplace tout. Pas du tout. Il y a une acquisition d'un habitus d'art. Alors, pourquoi? Première raison, la même que tout à l'heure. C'est qu'il y a un progrès. L'être humain est un être essentiellement éducatif. C'est le plus éducatif de tous. Essentiellement éducatif. Essentiellement capable de progrès. Un être qui ne progresse plus s'arrête. Il plafonne. C'est ce que ça veut dire aujourd'hui. Et donc, très vite, il recule. On a toujours besoin de progresser. Ça, c'est très, très important. On a toujours besoin de progresser. On progresse même quand on a un certain âge. On doit progresser pour rester éveillé. Autrement, on dégringole. Et on dégringole très vite. Les chutes seront très vite. Alors, si c'est le terme de sa vie, ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le terme de sa vie qu'on peut encore donner quelque chose. Il faut progresser. Et on a besoin de progresser. On a besoin parce que ça, c'est inscrit au plus intime de notre intelligence humaine. Notre intelligence humaine étant au point de départ, tabula rasa, demande de progresser. À l'infini. Vous ne pouvez jamais dire que c'est assez. Vous dites que c'est assez quand vous n'avez pas encore compris ce que c'est que l'intelligence. Alors c'est dangereux de le dire. Quand vous dites, oh oui, c'est assez, maintenant j'en ai assez. J'en ai assez comme bagage intellectuel pour passer un examen. Oui, très très bien. Mais j'en aurai jamais assez pour vivre avec l'intelligence. Pour vivre avec l'intelligence, il faut toujours aller plus loin. C'est vrai du côté spéculatif, c'est vrai du côté pratique, prudentiel et artistique. J'allais dire que c'est du côté prudentiel où on pourrait plus le dire, à un moment donné on peut dire « Ah, c'est bien ». Mais c'est même pas vrai. Un véritable homme prudent progresse toujours. Et sa prudence de 45 ans n'est pas la même que celle de 70 ans. Et la prudence de 20 ans non plus. C'est pas la même. Il y a un progrès. Il y a des paliers. Il y a une manière d'être prudent à 45 ans. Il y a une manière d'être prudent à 60 ans. C'est pas la même prudence. C'est la même prudence au point de vue vertu, mais c'est autre chose. Elles devront s'enraciner. Une prudence d'un homme de 60 ans qui serait pas plus enraciné que celui de 30 ans, ce serait triste. À 30 ans, on doit avoir une prudence. Et puis, on était 20 ans pour comprendre tous les différents moments et les différents paliers. N'est-ce pas? Alors, vous voyez les différents paliers de la prudence qui demande de progresser. Eh bien, c'est la même chose du côté de l'inspiration. Et voyez, il y a là quelque chose qui est plus troublant et qui risquerait de nous faire croire que du côté de l'art, c'est différent, parce que l'art commence par l'inspiration. Est-ce que l'inspiration est plus forte? Est-ce que je peux quelque chose sur l'inspiration? Alors quand je dis l'art commence sur l'inspiration, c'est pas entièrement vrai. Au-delà de l'inspiration, nous l'avons dit, il y a l'expérience artistique. Et au fond, c'est la source cachée. Toute inspiration s'enracine toujours dans une expérience artistique. Alors là, il y a un progrès indéfini. Un véritable artiste sait regarder des choses diverses de ce qu'il fait. L'expérience. Et l'expérience d'un milieu. Et la diversité des milieux. Il a besoin de ça. Et alors de ce côté expérience, vous voyez, il y a possibilité tout le temps d'un renouveau. L'inspiration vient, elle, quand on peut, quand elle nous est donnée. Alors, je ne peux pas dire que je vais renouveler mon inspiration. Je vais renouveler mon expérience pour me disposer à l'inspiration. Alors ça, c'est très différent. Et un véritable artiste sent le besoin de cela. Il sent le besoin de renouveler toujours son expérience et de revoir quelque chose de nouveau. Il en a besoin. Il en a besoin pour que, justement, il se dispose à une nouvelle inspiration. Alors, si de fait, ça commence avec l'expérience, vous comprenez, là encore, le danger de plafonner, de s'arrêter. Et on s'arrêtera à cause de quoi? De la fatigue. La fatigue, ça provient de quoi? L'ennui. On est fatigué quand on est ennuyé. C'est évident. Quand on maintient en soi une intelligence curieuse, on ne se fatigue pas. Tout le temps aux aguets. On cherche. Oh, il y aura des moments, très bien, mais on cherche. Alors, qu'est-ce qui vient comme élément de fatigue? L'imaginaire. Qui empêche la curiosité. Qui empêche le contact avec l'autre. Qui fait une barrière entre les deux. Et c'est là où on voit qu'il y a une nécessité d'un barrage. Interne, pas une méthode, un barrage interne. Il faut que mon intelligence pratique, poétique, puisse s'armer de l'intérieur contre une imagination qui ne serait interne, pas une méthode, un barrage interne. Il faut que mon intelligence pratique, poétique, puisse s'armer de l'intérieur contre une imagination qui ne serait plus une véritable imagination poétique. C'est à l'intérieur même de l'imaginaire qu'il va y avoir un partage nécessaire. L'artiste a besoin d'imagination, mais pas n'importe quelle imagination. Et les vrais artistes sentiront ça tout de suite. Il y a une imagination qui maintient le contact, qui maintient la curiosité, qui maintient la possibilité d'avancer. Et puis il y a une imagination qui vous engloutit. Il y a une imagination pesante. Et l'imagination pesante arrête et empêche d'aller plus loin. Et c'est là où on voit comment il faut qu'à l'intérieur de l'intelligence pratique, il y ait possibilité d'acquisition de ce qu'on appelle un habitus d'art. Le véritable éducateur le sentira tout de suite. L'homme politique le sentira tout de suite. Moi, il dira, je plafonne, je répète. Oui, la répétition est d'ordre imaginatif, elle n'est pas d'ordre de l'inspiration. Celui qui commence à répéter, celui qui commence à reprendre des trucs, hein, oui, celui qui commence à reprendre toujours son même cours, eh bien celui-là, il plafonne. Il faut au contraire revenir à la source. Revenir à la source, l'expérience de tel ou tel milieu. L'imaginaire qui vient, l'imagination impliquée dans l'intelligence. Alors il y a à ce moment-là un discernement qui se fait, une détermination qui se fait à l'intérieur de l'intelligence pratique. C'est l'habitus d'art qui commence à pousser. Alors comprenez bien, hein, l'habitus d'art n'est pas unique. Hein. Vous avez tout de suite, à la différence de la prudence, il y a tout de suite la diversité des arts. Ils sont tous arts, mais ils sont divers. L'art poétique pour le poète, l'art musical, l'art pictural, et ainsi de suite. Tous les arts qui sont là, présents. Il n'y a pas un art commun. Non. Mais c'est vrai que même si les arts ne sont pas connexes, l'acquisition d'un art va ennoblir mon intelligence pratique et va lui donner justement une dimension particulière qui va permettre d'avoir une influence sur les autres secteurs. C'est ça qui est curieux. Ça, c'est aussi, ça reste difficile à préciser. Parce que vous ne pouvez pas saisir un aspect générique de l'art en disant il y a quelque chose de commun à la diversité des arts. Non. Chaque art est divers. Il est tout le temps art. C'est pas parce que j'ai un regard plus pénétrant du côté de la peinture que je vais me perfectionner du côté musical. Pas du tout. Et cependant, il y a quelque chose comme un rebondissement. C'est curieux. Ordinairement, un grand artiste comprend des quantités de choses sur les autres arts, en dehors de son art. Et il dit des choses qui sont intéressantes. Parce qu'il a quelquefois un autre point de vue que l'artiste même. Il peut dire des bêtises, mais il dit quelquefois des choses très intéressantes. Parce que c'est des choses vues d'un autre côté. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas un seul art, tandis qu'il y a une prudence. C'est là la très grosse différence. Il y a une prudence, et là vous commencez à comprendre pourquoi. Parce que la prudence est déterminée vers la fin de notre vie humaine, tandis que l'art est déterminé vis-à-vis de l'œuvre. C'est telle inspiration vis-à-vis de telle œuvre. L'inspiration du poète n'est pas la même que celle du peintre, n'est pas la même que celle du musicien. Et c'est à l'égard de cette inspiration, alors c'est là où il faut bien saisir, hein, à l'égard de cette inspiration vis-à-vis du point de vue nécessaire, que l'art est nécessaire, que l'habitus d'art est nécessaire. Je crois que c'est là où il faut se situer. Je vais préciser pour que nous comprenions bien à quel moment il y a nécessité d'un habitus d'art acquis. Pourquoi il faut ? Fondamentalement, c'est qu'il faut progresser. C'est la même raison que du côté d'apprenant. Deuxièmement, c'est le danger de l'imaginaire qui s'empare de trop. Et le danger de l'imaginaire qui s'empare de trop risque alors de me faire dévier. Alors, à quel moment dois-je le voir ? Je crois que je le vois à deux moments. Je le vois du côté de ce qui est source de l'inspiration et ce qui est le passage du possible au nécessaire. Le passage de l'inspiration au choix créateur. Je crois que ce sont les deux moments où l'imaginaire peut être quelque chose de nocif. Un certain imaginaire peut être quelque chose de nocif. Je vais m'expliquer pour que vous voyez bien là la nécessité de cet habitus d'art. Nous comprenons comment il y a besoin de retourner toujours à une expérience artistique. Parce que si je retourne uniquement à mon inspiration, au bout d'un certain temps, il y a une fatigue. Au bout d'un certain temps, il y a quelque chose qui est du réchauffé. Une inspiration, vous l'avez eue, vous ne pouvez pas la refaire vivre. C'est ça qui est très curieux. Un peu, on peut le faire revivre, mais en fond, très peu. Ça vient très vite du quelque chose qui est repris, et donc c'est plus l'inspiration. Alors pour redécouvrir une nouvelle inspiration, je reviens à mon expérience artistique. J'ai besoin d'un certain contact, d'un certain milieu. C'est pour ça que les artistes sont tellement dépendants de leur milieu. Tellement dépendants. Parce qu'il y aura pour eux des milieux qui seront stériles, qui empêcheront absolument toute inspiration. Et puis à rencontrer d'autres milieux qui les aideront beaucoup. Et c'est très difficile de le savoir exactement. Mais ça, tous les peintres le diront. Il y a des lieux géographiques qui sont comme ça. Pour certains peintres, on le sait très bien. C'est pas uniquement une question de mode, vous voyez. Il y a un peu de ça, il y a un peu de snobisme. Pas ? Alors il y a des lieux où tous les artistes vont. Il y a un peu de ça, mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus. Il y a la lumière. Il y a quelque chose. Et puis, il y a quelquefois la rencontre avec d'autres, hein, qui forment le milieu. Parce qu'on a besoin de pouvoir échanger. Même si on dit très peu de choses. Parce qu'entre artistes, c'est très rare. Il faut une grande amitié pour que les artistes puissent vraiment se parler. On dit, non, ils se regardent d'un drôle d'œil. Et puis, c'est toujours un peu le rival que vous voulez d'un côté. Là, il faut faire un petit peu attention. Faut pas. Mais c'est même s'il ne parle pas, la présence d'un autre artiste est quelque chose. C'est très curieux. Ça change l'atmosphère. Alors, il y a ça. Et puis, il y a des milieux. Donc, on retourne à la source. Et le point de vue de l'imagination, qui n'est plus une imagination prise par l'intelligence, dans l'inspiration, c'est l'imagination qui est prise par l'intelligence. Une imagination qui serait trop distrayante, trop affective, risque de me couper de ma source et donc de me faire perdre du temps et de me faire plafonner. Donc là, il y a la nécessité de quelque chose qui vient de l'intérieur fortifier l'intelligence poétique. Et puis le second moment, c'est le passage du possible au nécessaire. Je crois que là encore, il y a un passage, donc il y a un devenir, il y a une croissance. Là encore, il y a un danger, quelquefois que l'imaginaire, il y a un imaginaire trop exubérant, ce que Rilke dit, n'est-ce pas, qui n'est pas assez contenu, qui n'est pas assez intense, un imaginaire trop exubérant me fait aller dans tous les possibles. Alors il y a toutes les possibilités qui reviennent. C'est, on trouve ça chez des gens qui sont perdent un peu pédale, quoi. Ils ne passent jamais au nécessaire. Hein. C'est toujours les possibles. Il y a un plan, puis vous le revoyez deux jours après, il y a un nouveau plan. C'est toujours quelque chose de nouveau, des projets. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est plus l'inspiration. C'est la contamination de l'imagination dans le point de vue de l'inspiration. Ce sont des fausses imaginations. Vous perdez pédale. Vous êtes dans quelque chose qui est tout à fait en dehors de... L'inspiration, c'est pas ça, c'est impossible, qui peut se réaliser. Tandis que là, vous êtes en face, vraiment, d'une exubérance qui n'est plus poétique, qui est purement imaginaire. C'est l'imaginaire qui prend indéfiniment. Alors, vous construisez des plans sur la planète indéfiniment, et vous vous arrêtez jamais sur quelque chose. Vous ne pouvez pas, parce que c'est justement quelque chose qui ne tient plus du tout, qui est purement imaginatif, jamais en passant nécessaire. C'est là où je crois, vous voyez, qu'il y a aussi nécessité d'un habitus d'art pour sauver la véritable inspiration. Alors, c'est délicat, c'est très délicat, bien précisé. Mais je crois que ce sont les deux points où on peut dire que il faut à tout prix que de l'intérieur, l'intellect pratique, l'intellect poétique soit fortifié. Il a besoin d'être fortifié, donc d'être déterminé. Hein. C'est l'intelligence qui se détermine elle-même. Hein. C'est pas autre chose, puisque le poète comme tel, l'artiste comme tel, ne demande pas conseil. Donc il faut que de l'intérieur, l'intelligence soit suffisamment vigoureuse. Et l'habitus d'art vient donner à l'intelligence sa vigueur. Un artiste, on le voit tout de suite, il y a en lui une vigueur intellectuelle. Et cette vigueur intellectuelle vient justement de cette habitude-là. Pas du tout quelqu'un qui vous propose des quantités de choses comme ça, non, pas du tout. Il est déterminé. Il y a une détermination foncière qui vient de lui, et qui vient justement de cette habitude. Qui ne supprime pas l'inspiration, qui ne supprime pas donc tous les possibles, qui ne supprime pas le contact avec l'extérieur, mais qui est une détermination très profonde en vue de l'œuvre. Alors c'est là où je crois qu'il y a nécessité d'un habitus d'art. Qu'est-ce que c'est que cet habitus d'art? Donc après avoir vu la nécessité, pourquoi il y a l'habitus d'art? Qu'est-ce que c'est que l'habitus d'art? Qu'est-ce que vient faire l'habitus d'art? À l'intérieur de l'intelligence poétique, l'habitus d'art vient déterminer l'intelligence pratique vers l'œuvre. Donc c'est une détermination interne, hein, toujours, c'est un habitus. C'est une détermination interne. Une détermination interne qui lie l'intelligence à l'imagination. C'est-à-dire qui lie l'intelligence à l'inspiration. C'est peut-être ça qu'on devrait dire. L'inspiration est antérieure à l'habitus. Elle est source. C'est pas l'habitus d'art qui me donnera l'inspiration. Exactement comme ce n'est pas la prudence qui m'apprend à aimer. J'aime avant la prudence. Mais la prudence est là pour maintenir un véritable amour. Un amour spirituel. Et que cet amour ne tombe pas dans la velléité. De même, au point de vue artistique, ce n'est pas l'habitus d'art qui donne l'inspiration. L'inspiration est antérieure. Elle est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus elle est foncière en nous. Mais l'habitus d'art va maintenir une véritable inspiration, va empêcher l'inspiration de se dégrader. C'est ce que j'appelais tout à l'heure, vous voyez, c'est cette espèce de distraction imaginative qui vient s'ajouter à l'inspiration et qui dégrade l'inspiration. Il y a l'analogue de la velléité dans l'ordre de l'art à l'égard de l'inspiration. Il y a une espèce de dégradation de l'amour dans la velléité, il y a une dégradation de l'inspiration par l'imaginaire. Et cette dégradation qui empêche l'inspiration de pouvoir se noyer, se nouer profondément autour du choix créateur, c'est parce que justement l'imaginaire affectif ira trop loin. Un imaginaire passionnel qui m'empêchera de rester au niveau de l'inspiration et donc empêchera l'inspiration de mûrir, d'aller jusqu'au bout de ses exigences dans le choix créateur. Je crois que c'est cela que l'habitus d'art doit faire. L'habitus d'art va être gardien de l'inspiration et permettre à l'inspiration de mûrir. Donc il va nouer l'intelligence pratique, poétique, à l'inspiration et à la réalisation, en passant par le choix créateur, quelque chose de nécessaire s'impose à moi. C'est complexe, hein, l'habitus d'art. C'est quelque chose qui va permettre à l'intelligence poétique d'aller jusqu'au bout de ses exigences d'intelligence poétique, qui va permettre à l'intelligence artistique d'aller jusqu'au bout de ses exigences artistiques. Et donc, c'est sauvegarder l'inspiration et permettre à l'inspiration de se nouer dans quelque chose de nécessaire. Et permettre par là d'aller vers l'œuvre. Parce que quand l'inspiration reste uniquement inspiration sans passer au nécessaire, jamais je ne vous dirai à l'œuvre. C'est impossible. Il faut qu'il y ait cette phase nécessaire d'un choix créateur pour un moyen qui s'impose et qui, à partir de là, me conduit à l'œuvre. Alors si mon inspiration se corrompt dans cette espèce d'imagination qui va trop loin, jamais le nécessaire apparaîtra. Il y a des frontières, un art trop romantique. Il y a des inspirations romantiques, on a l'impression, on a choisi ça, on peut choisir autre chose, pas d'importance. Et alors, ça sent jusque dans l'œuvre. Ça sent que dans l'œuvre, il manque d'honnêteté. L'habitus d'art n'aura pas été assez là. Je ne veux pas dire que l'habitus d'art est nécessairement anti-art romantique. Ce n'est pas ça. Ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'art romantique, des déterminations fortes. Mais très souvent, l'habitus d'art va permettre à l'inspiration d'avoir une netteté qu'elle doit avoir pour aboutir au nécessaire et aboutir à l'œuvre. Parce que si elle n'aboutit pas au nécessaire et à l'œuvre, elle perd sa vitalité, elle perd sa force.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure.